Aujourd'hui, à la version express de La Vie est belle, je reçois un invité presque parfait, l'ex-RBO André Ducharme. Et parce que dans la version complète, ça dure une heure et quelques, on avait vraiment de la jasette, on pogne les meilleurs moments, on vous met ça une trentaine de minutes ici dans le balado. Et peu importe sur quelle plateforme vous nous voyez ou vous nous écoutez présentement, ben, je vous invite à faire un petit bouton, s'inscrire, s'abonner pour voir et entendre nos nouveaux épisodes. Également, prenez deux secondes là, pour mettre des étoiles, des pouces en l'air, des petits commentaires, ça nous aide dans les algorithmes. Bonne rencontre.
Balado, épisode 21. André Ducharme.
3, 2, 1. Tu sais, on a tous vécu cette pandémie-là de toutes sortes de façons, à toutes sortes de moments. On a eu des moments tough. Moi, le moment le plus tough, c'est ça. Moi, quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas voir mon petit-fils avant je ne sais pas quand, j'ai fait une solide dépression.
Mon nom est François Charron. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Ducharme, bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
On a eu de la misère à avoir une date, toi puis moi.
Ça a été un petit peu compliqué.
C'était un petit peu compliqué.
C'est pas de ma faute.
Non.
Mais un peu, parce que ça m'impliquait.
Ouais.
Ouais, c'est ça, petite réaction à une double vaccination il y a un mois. Et là, je me suis mis à faire de la fièvre à peu près au moment où je devais venir te voir.
Puis de ce temps-là, quand on fait de la fièvre?
Il paraît qu'il faut rester chez nous. Fait
c'est
que je suis
ce
resté chez nous. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce contretemps.
C'est tellement pas très grave parce que, entre-temps, t'as annoncé quelque chose que t'aurais pas pu me dire avant.
J'aurais pas pu te dire ça.
C'est pas facile sortir d'un train, hein?
Ben, c'est pas facile pour toutes sortes de raisons. Premièrement, tu sais, c'est facile de quitter quelque chose quand ça te tente plus.
Ouais.
De quitter quelque chose, même si ça te tente encore, ce qui est le cas.
Okay.
Pour un souper presque parfait, je pars pas parce que je suis tanné. Je pars parce que je veux pas me tanner.
Ouais, une nuance.
C'est très, très différent. Puis, tranquillement, pas vite, plus vite que tranquillement, je suis devenu l'identité de cette émission-là. Puis, de le terminer en animation, effectivement, ça a été bien le fun. Puis, de revivre des moments. Puis, moi, ce que j'ai aimé le plus de la série Meilleur Moment, c'est de faire des recaps sur ce que sont devenus les participants. Parce que, au-delà de cette émission-là, qui est du monde qui se reçoit au souper, se donne des notes, puis tout ça, puis qui, des fois, se chicane. Puis, bon, au-delà de ça, il y a des histoires. Il y a des maudites belles histoires humaines. Il y a des vies qui ont été changées par cette émission-là. C'est allé aussi loin que des gens qui ont eu des enfants ensemble. Moi, je trouve ça hallucinant. Si tu m'avais dit il y a 11 ans que j'allais m'embarquer dans une affaire de même, je ne l'aurais pas cru. Je pensais pas que ça allait être ça.
T'es vraiment monté au bat pour le show parce que c'était toi le gestionnaire de communauté de l'émission.
Oui, oui.
C'est rare que l'animateur, le writer, c'est lui qui... Ah ouais, il se défend sur Facebook puis Twitter.
Oui, puis j'intervenais... J'avais une technique parfois parce que c'est arrivé effectivement quand il y a des participants qui sont controversés ou qui déplaisent, là, écoute, la meute se met après eux autres puis reçoivent des commentaires d'une méchanceté.
C'est clair, parce que ces shows-là, t'as besoin de gens colorés.
Ouais.
Puis quand ce monde-là, avec leur candeur, arrive là, des fois, ils passent au bat, c'est un méchant moyen
effrayant.
De temps. Là.
C'est effrayant. Et plus on a avancé dans le temps, ça a un peu fait partie de ma réflexion, d'ailleurs. Plus on a avancé dans le temps, pire c'est devenu, parce que les réseaux sociaux, la bête des réseaux sociaux aujourd'hui et la bête d'il y a 10 ans, c'est pas la même bête. Ça a changé beaucoup.
Oui, puis je pense qu'il y a une partie de la population qui a changé d'alimentation. Là.
Peut-être aussi.
C'est une gang, là.
Non, moi, je suis toujours étonné de voir qui écrit ces choses-là. Bon, oui, t'as des trolls, t'as du monde qui s'amuse à mettre la merde puis à écrire des affaires pour faire réagir, mais t'as aussi des gens en pleine bonne foi, qui écrivent dans le fond ce qu'ils se disent dans leur salon.
Mm-hmm.
Tu sais, elle, la maudite, si je l'avais devant moi, j'y sacrerais une claque en pleine face. Elle écrit ça. Puis là, tu sais, mon Dieu, c'est donc bien violent. Et là, tu vas voir l'avatar de la madame, puis c'est une grand-maman avec un caniche, puis ses petits-enfants.
Caniche blanc-jauni.
Ben oui, il est toujours blanc-jauni.
Il a l'air fumeur. Tu sais,
c'est une bonne madame, là, c'est sûr. Puis dans son salon, elle a le droit de le dire, mais elle n'a pas compris que Facebook puis son salon, c'est pas la même chose. Puis quand tu parles à la TV, la personne qui est dans la TV, elle t'entend pas, mais quand tu parles sur Facebook, la personne de qui tu parles te lit, d'autant plus que c'est un réflexe naturel de l'humain de savoir ce que les gens pensent d'eux.
Puis j'imagine, si tu disais, avec ton passé d'RBO et compagnie, t'as à quoi de plus dur qu'un autre, j'imagine. C'est-à-dire que si on t'attaque, t'as deux, trois couches de teflon pour faire « Regarde ».
Je commence à être assez habitué.
Tu en as entendu deux, trois, là.
Oui. Les participants, moi, j'ai remarqué ça. Un participant, une participante, des gens contrôlants, OK? Eux autres s'embarquent là-dedans, sont convaincus de gagner, sont convaincus que ça va se passer exactement comme ils pensent que ça va se passer, oui. Et c'est pas ça qui arrive.
Jamais.
Et jamais, mais ces gens-là, ceux qui ont ce trait de personnalité-là, c'est ceux qui réagissent le plus mal par la suite. Parce que leur pattern ne marche pas. Eux autres, ils se sont construits une histoire. Cette histoire-là ne marche pas. Ils n'ont pas nécessairement le beau rôle dedans. Ils ne gagnent pas. Ils ne ressortent pas comme ils pensent. Ils sont pognés avec une personne qui les énerve. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ces gens-là, c'est peut-être ceux qui le prennent le plus mal, qui sont les plus difficiles à gérer par
et
la suite.
Et ça faisait partie du plaisir coupable d'écouter l'émission.
De voir.
De voir ce persona-là qui est rendu au vendredi, gagnait pas, puis voir sa petite face sec, puis il avait repris un autre verre de vin de plus, fait que au recap, là, avec ses assiettes dans les mains, là, il était moins dedans.
C'est allé jusqu'à des participantes, c'est arrivé deux fois, des participantes qui ont mis tout le monde dehors à la fin de l'émission. Allez-vous-en, je veux rien savoir, sacrez votre camp, allez-vous-en.
Bon, on arrangera ça au montage.
Non, ben tu le laisses, c'est ça qui est le fun de ce type d'émission-là, c'est que, puis nous très très rapidement, Guillaume L'Espérance, le producteur et moi, on a pris, parce qu'il y a des téléréalités qui sont, entre guillemets, arrangées ou scénarisées, ou, tu sais, nous autres, on s'est dit non, nous autres, on montre ce qui arrive.
Ce show-là, c'est fascinant l'impact qu'il y a eu sur les candidats.
Ouais.
Mon ex a passé une fois dans ce show-là. Mm-hmm. Et moi, c'était dans le temps où j'étais 5 jours semaine à Salut Bonjour.
Ouais.
C'était moins la vedette, comprends-tu? Mm-hmm. Puis pendant au moins 2-3 ans, on arrivait dans un centre d'achat. Puis là, le monde disait « Hey! » Puis là, ben moi, je me virais de base. C'est moi, vedette, on me dit bonjour. Ben non, toi, c'est l'autre qui parlait.
Oui.
Fait que moi, j'étais à la chandelle.
Non.
Fait que c'est... moi, je faisais comme « Écoute, salut, bonjour, tu fais du 15-20 heures de télé en direct par semaine.
Mm-hmm. »
Puis le gars ou la fille, ils savaient même pas j'étais qui.
Ben...
Parce que ça a rejoint une autre gang. Hein. Vraiment, là, tu sais, la gang qui regarde Salut Bonjour, puis la gang qui regardait un souper, il y avait un croisement.
Oui, bien sûr.
Il y avait clairement une gang très différente. Il y a du monde qui me regardait, là, il savait fuck all pas, j'étais qui.
Je sais pas, t'étais qui.
Mais l'autre qui avait passé un an et demi à un souper une fois, là, waouh.
Ben, c'est une des choses que je disais aux participants quand certains avaient des semaines difficiles par rapport aux réactions sur les réseaux sociaux. Je leur disais, sortez. Allez au centre d'achat. Vous allez savoir ce que le monde pense pour vrai. Puis c'est complètement différent. Comme t'es-tu en montage?
Non, on est en live.
J'avais une anecdote de
ouais.
OK.
Mais ben vas-y.
Je suis à New York.
Ouais.
OK, je suis avec ma blonde. Alors, on s'en mange au restaurant. Et là, il y a un sans-abri qui me regarde, qui me pointe. « It's the guy from the TV! You're the guy from the TV, man! You're the guy from the TV! » Je regarde ma blonde, je dis, « Un sans-abri de New York qui me reconnaît? Ben, il est peut-être un gars de Montréal. Il m'a vu sur un... Je sais pas. » Ma blonde a dit, Kiefer Sutherland est en arrière de toi. Et je l'ai même pas vu, Kiefer. Je me suis retourné, il était rentré dans le restaurant. Ma blonde s'est foutue de ma gueule.
C'est clair.
C'est ça. I'm the guy from the TV.
Yeah. Hey, là, t'étais quelque chose à New York, man.
Oh yeah.
On me reconnaît.
C'est ça.
Ben, je vivais la même affaire, mais c'était pas Kiefer.
Non. Kiefer.
Kiefer. On est composé de couleurs. Il y a quatre couleurs.
Okay.
Ta couleur dominante, c'est le bleu.
Qu'est-ce que c'est ça, bleu? C'est quoi ça?
C'est un grand besoin de normes, de règles, perfectionniste. Toi, t'arrives devant un fichier Excel, puis tu es bien correct.
J'adore
avec ça.
Moi,
je sais que t'adores ça. Moi, j'ai pas de bleu. Je capote.
Moi, j'adore les fichiers Excel. J'aime même quand les fichiers Excel se recoupent. Puis je peux faire
toi, fait que là, tu connais, tu sais comment faire.
Des macros, puis des. J'adore ça, faire ça.
Arc.
C'est poche, hein?
Non, fait que là, tu sais, le gars, il est humoriste, puis il fait des macros Excel.
Ouais, mais j'ai pas. Ça a commencé en disant que j'avais besoin de normes et de règles. Ouais. Ça, c'est plus ou moins vrai.
C'est le respect de.
C'est plus ou moins vrai.
OK.
C'est plus ou moins vrai. C'est que je respecte les règles, je respecte les lois. Disons plus règles que lois, parce que les lois, on n'a pas le choix de les respecter dans un sens. Là, mais les règles, mais t'es mieux de bien me les expliquer. Parce que si je trouve que ta mosus de règles n'a pas de bon sens, c'est certain que j'en ai rien à foutre puis je ne l'écouterai pas. T'sais. C'est sûr. J'ai un côté rebelle, malgré le bleu dominant.
Ouais.
J'ai un côté très rebelle. Mais si ce que tu me demandes de faire a bien de l'allure puis que je comprends parfaitement pourquoi tu me le demandes, j'ai aucun problème à le faire. C'est parfait.
Moi, tu devais être doublement gossant enfant. Tu sais, les enfants qui demandent pourquoi, je vais le faire si tu me l'expliques. Si je comprends pas,
non,
je le ferai pas.
Non, parce que dans ce temps-là, j'avais pas le choix de le faire.
OK.
Mais on me l'expliquait pas.
En vieillissant, tu l'as réglé.
Oui, ça, je l'ai réglé. J'ai, oui, C'est peut-être pour ça que je suis comme ça, d'ailleurs. Puis c'est drôle parce que mon père était comme ça.
T'as donné les trois lettres qui ont marqué une grosse partie de ta vie, RBO, puis qui marquent encore. Mais avant RBO, t'as eu un band qui faisait de la satire, de la musique des années, justement...
60,
okay. Exactement. On reste là-dedans, l'esthétisme, si t'aimes ça. Il y avait Jacques Chevalier-Longueuil qui était avec toi. Vous aviez quel âge?
Quand on a commencé à faire ça, ben on a commencé en faisant de l'humour, puis tranquillement, pas vite, on est allé vers la chanson humoristique parce que c'est vraiment aussi, tu sais, on s'est mis à triper musique, puis on écrivait 3-4 chansons par semaine, puis envoyé donc, là. Je te dirais qu'on avait peut-être 16 ans.
Et vous étiez vraiment bon, on écoute ça, là.
Tu ris de moi. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Le feu sauvage,
le feu. Quand même. Le feu sauvage, c'est pas RBO.
Non.
C'est une reprise.
Ben, en fait, tu sais, il y a des affaires qui t'arrivent dans la vie qui font en sorte que tout le reste est arrivé. Cette chanson-là, qui a été composée, comme je te dis, on avait 16 ans, je pense. On va dire 16, peut-être 15, mais je pense que c'est plus 16. On fait des tunes. Yé yé nonon, c'est ça qui nous fait triper pour rire, parce que ça fait pas si longtemps que c'est fini, l'époque des groupes yé yé, on est en 76, 77, ça a fini il y a peut-être 8 ans. Fait qu'on compose des tunes de même, Le Feu Sauvage, tata, puis on chante ça dans le sous-sol de Jacques Chevalier. On s'en regarde et dit, c'est un hit. Cette tune-là, c'est un hit. Mais on a 16 ans. Il n'y arrivera jamais rien avec ça. Mais on a continué à faire des shows. On a même fait un show de TV à un moment donné à Télé-Québec. Un one-shot, mais tranquillement, pas vite, ce band s'est semi-professionnalisé-là, et on fait un show à l'UQAM, je suis en communication à ma première année, à la fin de la première année, on fait un show, et on chante ces tunes-là. Dans la salle, il y a Richard Sirois, il y a Guy Lepage, et Rock et Belles Oreilles, l'émission de radio commence une semaine plus tard. Ils me connaissent pas. Là, ils voient ça, ils font « Wow! Hey! » Ça te tente-tu de venir faire de la radio avec nous autres? Et c'est comme ça que moi, je suis devenu Rock et Belles Oreilles. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, « Hey, ce serait le fun qu'on chante Le Feu Sauvage dans nos shows quand on a commencé à faire des shows. » Puis, ben c'est ça.
Puis voilà. C'est fou comment la musique a pris une place ultra importante dans RBO. Vous avez commencé à Radio Communautaire, vous avez ramassé rapidement. Les grosses radios vous ont ramassé. Ça a smashé. Combien de fois t'as dû te faire dire par du monde de communication, tu m'as influencé, à vous m'avez influencé à y aller?
Ouais, ben écoute, nous autres, on nos influences, c'est autre chose. T'sais. Moi, tu parlais de Dingue Dong, moi, ma grosse influence, c'est Paul et Paul. Quand t'écoutes Jacques Chevalier, avec qui j'ai fait le
super choriste.
Bon, ben oui. Mais quand tu écoutes le personnage de Jacques Chevalier, il parle pas mal comme un personnage de Paul et Paul. Puis je me souviens, Jacques puis moi, on s'est connus très, très jeunes. Puis on passait des soirées au téléphone à se parler puis à se raconter nos journées, alors qu'on avait vécu la même journée. On était ensemble, on s'inventait des journées. Puis on se parlait au téléphone pendant une heure de temps avec les voix de Paul et Paul. Mais très rapidement, quand on a commencé à faire de l'humour RBO, dès qu'on faisait de quoi qui pouvait ressembler un tant soit peu à Paul et Paul, on le faisait pas.
Okay.
Si quelqu'un arrivait avec un sketch qui ressemblait à Paul et Paul, c'était « ben il est bien bon ton sketch, mais on le fait pas. » Parce que nous autres, il faut qu'on se définisse, il faut qu'on se trouve un style à nous autres. Puis c'est peut-être pour ça qu'RBO a eu cet impact-là, c'est qu'RBO, c'était vraiment une identité humoristique là, très, très, très nette. Du RBO, c'était du RBO.
T'sais. Ouais. C'est quoi les ingrédients d'RBO? Un peu stupide, un peu méchant, un peu intelligent, éditorial.
Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Mais surtout, moi, je pense que la principale caractéristique d'RBO, c'est qu'on marchait sa ligne tout le temps. Tout le temps. Puis on la dépassait une fois de temps en temps. Mais je te dirais, pas mal toujours en contrôle. Là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait la grosse gaffe qui aurait pu nous coûter bien cher. Là, puis le diffuseur, honnêtement, il est capable d'en prendre. Là. Il n'est pas... c'est arrivé très, très rarement dans les 4 dernières années de Bye Bye où la direction a fait « Ah non, ça, là... non, ils vont dire « Ça, je pense que c'est pas drôle. » C'est ça qu'ils font. Puis là, tu fais...
T'as raison.
Ouais, t'as raison. On se l'a demandé, on a pris une chance, mais là, finalement, c'est pas drôle. C'est plus ça, leur critère.
RBO, vous avez été, quand on regarde dans le rétroviseur, une machine à hit.
Ouais.
Vous avez chié des hits.
Ouais. Ben, pas nous autres, nos musiciens, parce que...
Entre autres, c'était pas un secret, mais un des ingrédients secrets, c'était quand même Patrick Bourgeois qui travaillait avec vous autres.
Patrick a écrit
mal.
Beaucoup pour nous.
Je me rappelle, moi, j'étais au cégep, puis Le Feu sauvage, ça jouait dans les discothèques.
Ouais.
J'ai dansé, moi, sur Le Feu sauvage.
Imagine la toune de Nono que t'as fait jouer tantôt.
Mais pas en
là.
Joke, là. Ah oui. C'était sérieux parce que ça jouait juste avant un B-52s, puis le DJ il mixait ça, puis il y a personne qui faisait comme « que c'est ça une toune d'humour dans un bar? » Pas en tout.
Non, puis quand Arrête de boire partait, mettons, ou quand Bonjour la police partait, la piste de danse se vidait pas. Mais nous, c'était important pour nous autres que nos tounes sonnent. Un, parce qu'on tripe sa musique. RBO, on est des musiciens frustrés, toute la gang. Là. Si on pouvait revenir, renaître, être réincarné, on serait réincarné en band.
Ben, ton chien s'appelle Penny Lane.
Exactement. Yeah. Idéalement, on serait réincarné en Beatles, mais les quatre Beatles seraient encore vivants. Une autre histoire, moi, j'aimerais ça être Paul McCartney parce qu'il me fait triper en tabarouette, mais probablement que je serais Ringo. Mais ça pour dire que on tripait sa musique et on voulait que nos tunes sonnent, mais ça allait complètement à l'encontre de ce que la business voulait à cette époque-là. Nous autres, quand on est arrivé au monde, on disait, nous autres, notre album, on fait un album Pourquoi chanter, qui est l'album de tune qu'on a fait. On veut que ça sonne, puis on veut que ça coûte le même prix que l'album que Michel Rivard vient de faire. On veut la même valeur de production. Puis là, la maison de disques disait, regardons, pourquoi?
Des jokes.
Pourquoi? Vous pourriez juste faire de la petite musique bien simple, puis on en vendrait autant, vous feriez plus d'argent. Puis nous autres, on disait, non, on veut que ça sonne. Puis Pourquoi chanter, ça a été des semaines et des semaines de production en studio avec le même ingénieur de son que tous ces grands albums de l'époque qui était Pierre Pagé, qui avait fait Séguin, qui avait fait Piché, qui avait fait Rivard. On travaillait de la même façon, puis on est allé chercher des gros compositeurs, puis nos tunes, ils sonnaient, puis ils sont encore le fun à écouter. Fait que,
puis ça a donné des années après quelque chose de quasi surréel parce que votre dernier comeback, c'est un show de tunes.
Un show de tunes, oui.
Avec, il y avait combien de monde? C'est quoi? C'est au-dessus de 100 000?
Quand on a fait le show à place des festivals, la foule a été évaluée à 100 000 personnes. Ouais.
Non, mais tu sais, là, pour le gars qui rêve d'être un Beatles,
ça
avoue
été...
là, qu'en dedans, là, tu fais comme... Parce que là, c'était pas un show de jokes. Il y avait des jokes, là, mais
il y en avait pas tant. Non.
Surtout de la musique.
Oui, il y avait plus de... Parce qu'on a refait ce show-là en version amphithéâtre, même pas aréna. On l'a fait au Centre Bell pour le Centre Vidéotron. Un an plus tard, le show d'amphithéâtre était plus un show de jokes avec des chansons. Tout. On avait vraiment créé des sketchs parce que c'était plus facile de faire des sketchs devant 5 6000 personnes. On était en mode amphithéâtre.
Déjà faire de l'humour avec 5 6000.
On avait des grands écrans, on avait des projections. Ouais. Bon, bref, on a réussi à le faire. Ça, c'était plus un show humour-chanson. Mais le show de la place des festivals, c'est un show de tunes. Puis c'est comme ça qu'on l'a vécu. Moi, ça demeure le show de ma carrière. C'est ce show-là. Là. Si je n'avais juste un à revivre, ça serait celui-là. C'est celui sur lequel j'ai le plus trippé. C'est celui sur lequel j'étais le plus en contrôle quand je l'ai fait. Étonnamment, je m'attendais tellement à chier dans mes culottes. Mais je m'attendais vraiment à pas être capable. Et,
mais pendant que tu dois te parler, tu vas dire savoure, savoure, savoure.
C'est exactement savoure. Ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Parce que, tu sais, il faut aussi remettre les choses en contexte. On n'avait pas fait de show ensemble depuis 1991. On est en 2014, ça commence à faire un bout. On n'était pas remonté sur scène ensemble, sauf pour des petites affaires, une petite tourne au Gala de la 10, des choses comme ça. Fait qu'on fait le show qu'on rêvait de faire. On est chanceux, il y a 100 000 personnes, on ne savait pas combien il allait avoir de monde. En plus, il faisait même pas beau 2 heures avant. Puis tout d'un coup, il s'est mis à faire beau. Puis là, on a vu les gens arriver. On était dans une chambre d'hôtel à se reposer, puis... On voit, là, ça arrive de partout.
Les fourmis
qui arrivent, puis on fait « voyons donc, c'est pas ça qui est en train de se passer ». Moi, je me souviens...
C'est vraiment notre scène à nous, ça.
C'est notre scène.
Vient de nous voir.
J'ai une photo chez nous qui est extraordinaire, qui a été prise quand même avec pas mal de recul. Fait que tu vois vraiment là, la marée de monde, là. Et ça donne que c'est moi qui étais sur scène à ce moment-là, tout seul à chanter une toune. Il y avait Mitsu qui faisait ma choriste, on était deux. Tu sais, je suis gros de même. Je suis une petite bébite dans l'image. l'image. Puis là, c'est la mère de fourmis. C'est une photo que je trouve extraordinaire.
Mais t'es là, t'as 25 ans, tu fais 6 pieds 2, t'as les cheveux longs, puis t'as des muscles partout, puis t'étais un rockstar, là. C'est sûr qu'il y a un moment de fabulation pendant quelques secondes, là.
Ouais, mais ça, ce moment-là, je l'ai fait avant le show.
OK.
Ouais. Ce que j'ai fait, puis j'ai conseillé aux autres membres de le faire, puis je pense qu'ils l'ont tout fait. Je suis allé sur scène, mais sur scène, tu me vois pas parce que je suis un petit peu caché en arrière du drum, et là, j'ai regardé avant que le show commence. Là, je regardais.
Comme faire une dose pour essayer de ne pas pogner la chienne?
C'est ça. Pour que ce moment-là ne m'arrive pas quand j'arrive sur scène, puis je pense qu'on commençait avec le feu sauvage, pas sûr. Mais c'est pas quoi on commençait. Peu importe. Tu sais, je voulais
même
pas...
Même après tant d'années de métier, t'as peur d'arriver sur scène juste à comme casser.
C'est ta respiration qui est tellement importante dans des moments comme ça. Moi, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec ma respiration. Ouais. Là, je suis discipliné, je suis organisé. Mm-hmm. Donc, la journée qui précède un show, elle est organisée quasiment à la minute près. Tu sais, pour que j'arrive au moment, à 8 heures quand le show commence, je suis dans l'état dans lequel il faut que je sois. Donc, c'est un exercice de concentration, c'est un exercice de respiration pour arriver que quand ça part, ben là, il ne faut pas que tu... que tu capotes, que le cœur te bat trop. Non, j'étais super zen parce que ce moment-là, j'étais allé le chercher avant. Après ça, OK, c'est beau. Ça va être ça, l'image. Ils sont nombreux. Puis c'est vraiment de la visualisation. C'est pas pour rien que je me ferme les yeux en parlant. Là, je les vois encore. Là, OK, ça va partir de même. C'est beau. Ça va être correct. Et comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas monté sur scène ensemble, le moment, ça avait plus été de dire, bon, ben regarde, on pensait jamais revivre ça. Là, on le vit et on en profite.
Savourons.
Savourons.
C'est quoi l'impact de ne pas être grand? Non, mais c'est parce que. Non, mais c'est quoi l'impact d'avoir des cheveux longs? C'est quoi l'impact d'être un musclé? Clairement, tu sais, on arrive sur le site web de ton gérant. Mm-hmm. La première ligne, c'est il est né à Montréal et a tenté de grandir à Longueuil.
Ouais, c'est Sylvain Ménard qui a écrit ça, je pense. C'est le Moses. Écoute, probablement que dans mes traits de personnalité, ouais, là, il doit y avoir plein d'affaires qui viennent du fait que je suis pas grand. J'ose espérer que j'ai pas ce qu'ils appellent le complexe de Napoléon, parce que je ne crois pas l'avoir. Je l'ai peut-être déjà eu, mais je ne crois pas l'avoir. Tu sais, la personne qui veut prendre plus de place qu'elle en prend, là, puis qui est loud,
le syndrome de petite GRINE.
Ouais, mais je pense pas que j'ai ça.
Une petite GRINE.
Ça, c'est entre moi et mon épouse, qui est avec moi depuis 35 ans, ce qui veut dire que... Ou ben non...
Qui est ton beau grand trésor, quand même.
Oui, ou bien non, j'ai d'autres talents. bref, ça pour dire que être petit, quand t'es jeune, c'est un drame hallucinant. Parce que tout ce qui s'appelle bullying, tu l'as, tu y goûtes,
j'ai mangé. C'est ça, je pense au bâton.
Tous les coups que je pouvais pas manger. Et quand c'est doublé en plus de bonnes notes à l'école et de, tu sais...
Ah, la bolle!
La bolle.
Fait que déjà, dès que t'es bon, t'es boulié. Fait que là, le bon, petit bon, hé là, regarde.
T'es hyper boulié.
Deux pour un, c'est claque, ça y est.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, et c'est drôle parce que quand je faisais de la tournée avec RBO, ça arrivait très souvent que des gens venaient me voir après le show, des gens petits et dans la quarantaine, et qui disaient, c'est vrai, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle les petits, hein. Eux autres, ils vivent encore.
OK.
Moi, je ne le vis plus,
ça. Ils n'ont pas passé par-dessus.
Moi, j'ai passé par-dessus de deux façons. Un, en me développant un sens de l'humour très mordant. Tu ne m'écœures pas dans la vie. C'est plate, là. Tu ne m'écœures pas. À moins que tu décides de me sacrer une volée, tu vas être capable. Mais si tu veux juste m'écœurer, tu ne gagneras pas.
Mais tu as compris rapidement que tu fais gagner une guerre avec ta gueule.
Mais-en. Là, en fait, le point, c'est très simple. Tu descends de l'autobus, le gars veut te péter à la gueule, il est avec ses amis. Tu fais une joke sur le gars, ses amis partent à rire, c'est réglé. Il ne te pètera pas à gueule, il va peut-être même devenir ton ami. Bon, mais ça, ça m'a pris du temps avant de le comprendre.
Moi, j'étais le 98 livres trop grand. Fait que toi, t'étais le petit, puis moi, j'étais l'échalote. Fait que moi aussi, des claques à gueule, j'ai appris à me garder la gueule. Tu gardes.
Exactement. Mais je sais qu'il y a des gens qui, dans leur vie, tu sais, ils ont 45 ans, mesurent 5 pieds 1, travaillent d'une shop, puis se font écœurer. Puis ils continuent de se faire écœurer, puis leur vie, c'est de se faire écœurer. Ça, je trouve ça rough. Moi, ça, je le vis pas parce que j'ai développé cette espèce de prestance et deux, je suis connu.
Puis tu l'auras utilisé aussi à l'occasion.
Pour pour revirer ça en ma faveur. Puis ouais. Bon, c'est ça, t'en fais un personnage, puis tu vois, piment fort, tu fais... La joke de petit, c'est toi qui l'as fait, que t'as fait, bon, tout ça. Mais je me rends compte, quand je vais ailleurs, quand je vais à l'extérieur du Québec, et que je suis pas connu...
Que t'es un nobody.
Et...
Là, t'es le petit client, t'es le petit monsieur à la caisse.
Le test, là, tu vas dans un bar, mettons. Puis là, tu t'accotes au bar, puis tu calcules combien de temps ça va prendre avant que tu te fasses servir.
Ah, t'es pas servi.
Oh yeah. Puis c'est long. C'est long, en tabarouette.
Parce que souvent, les bars sont vraiment très hauts dans les bars.
Fait que toi, t'sais, là, OK?
Oui, on te voit les épaules puis la tête, puis...
Fait que le truc, c'est de te monter. Tu sais, il y a des stools, il y a des tabourets. Ah, des fois, ouais. Il y a même une barre dans le bar. Barre,
ouais.
Tu te montes.
Ah, t'embarques là-dessus?
T'embarques là-dessus. Et là, whoops, ça marche.
Tu te fais un Marie-Claude Savard?
Oui, c'est
moi,
ça.
Moi, je me disais le bonjour longtemps avec elle, sa boîte de pommes, elle traînait
ben
sa
oui,
boîte de pommes.
Boîte de pommes. Ben oui,
mais. Gino n'est pas très grand, mais elle arrivait à côté, puis à la boîte de pommes, puis des fois, Marie-Claude était quasiment plus grande que Gino.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Elle se trompait de boîte là, le matin.
Oui, oui. Ouais.
Fait que tu transformes le bar en boîte de pommes.
Il faut que tu te remontes, puis là, tu te fais remarquer.
Arrête donc,
ouais.
Toi.
Ah oui, absolument. Puis ça va aussi que, mettons, tu es dans une file d'attente pour quelque chose à l'aéroport, mettons. Ben, il y a quelqu'un qui va essayer de passer. Oui. Parce que t'es plus petit.
C'est mean.
Ben oui, mais c'est le même. Puis moi, j'ai pas le réflexe de faire OK, vas-y. Moi, c'est hey!
Ah ouais.
Et là, je fais, en le faisant, je fais ah, Christ, c'est vrai, je me suis juste 5 pieds 1 puis il me connaît pas, je suis dans le marde peut-être.
Ouais, au Québec, c'est une chose, mais.
Ben, au Québec, j'ai pas besoin de le faire.
Non, absolument.
Mais à l'étranger, ça m'est arrivé de faire ça, d'avoir vraiment un mouvement. Tu sais, quelqu'un, mettons, il passe devant moi, il passe devant ma blonde, puis il mesure 6 pieds 2. Ben moi, moi, je fais ça, puis je le recule, alors que je devrais pas faire ça.
Uh-huh.
Je peux me mettre dans la marde.
Clairement.
Mais mon réflexe, c'est ça. Parce que j'ai pas la personnalité du petit qui s'écrase.
Seulement.
C'est ça le complexe de Napoléon? Non, c'est
non,
pas ça.
Pas
ça.
Non. Non. Ce qui fait grandir, par exemple, c'est avoir des enfants. T'as deux
gars.
Et un qui t'a fait vivre une pandémie différente parce que... Il vit à Hong Kong.
Il vit à Hong Kong, oui.
Puis, écoute, on pourrait juste faire un balado sur mon gars reste à Hong Kong et la COVID parce qu'il y a tellement à dire sur eux autres, ils l'ont vécu avant. Fait que là, toi, tu as eu la chance d'apprendre ou de stresser. Puis, comment tu as vécu ça, toi?
Ben, en fait, quand la pandémie a commencé en Chine, j'étais à Hong Kong. J'étais là quand ça a parti. Je me souviens très, très bien, fin décembre, mon gars qui est un boulimique d'informations, il est comme moi, il me disait hey, « ce matin, j'ai lu en Chine présentement, dans telle ville, il y a un virus, ça ressemble au SRAS. » On fait « Ah, OK, on va faire notre journée, pas de problème. » En dedans de 48 heures, à Hong Kong, qui était peut-être, je pense, à 600 km de Wuhan, je pense, là, c'est peut-être 300, peut-être, peu importe, tout le monde avait des masques. Tout le monde portait les masques parce que là-bas, ils ont vécu en plus le SRAS il y a une douzaine, une quinzaine d'années.
Et eux, dans leur culture, dès que tu penses que tu files pas ou qu'il y a une menace, c'est masque instantané.
Tu mets un masque pour protéger les autres. Eux autres, c'est... Bon, la distanciation sociale dans une ville comme Hong Kong, c'est pas évident, mais ils réussissent. Bon, tout ça pour dire qu'ils ont eu, au moment où on se parle, ils commencent leur quatrième vague. Et jusqu'à maintenant, il y a eu, je pense, c'est 106 morts. Depuis le début, et 5000 que cas, pas plus.
Probablement que pour un grand-papa, d'être loin de son petit-enfant, ça doit être quasiment deux fois pire qu'être loin de l'enfant, parce que l'enfant, on s'adapte.
Oui, ben moi, je te dirais que, tu sais, on a tous vécu cette pandémie-là de toutes sortes de façons, à toutes sortes de moments. On a eu des moments tough. Moi, le moment le plus tough, c'est ça. Moi, quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas voir mon petit-fils avant je ne sais pas quand, j'ai fait une solide dépression. Pour vrai, là.
Ah oui?
J'ai continué de fonctionner, mais ça n'a pas
été... T'as cassé.
J'ai cassé complètement. Puis là, je suis capable de t'en parler.
Mm-hmm. Oui.
Ouais, ouais.
Je comprends. Je comprends très
moi,
bien.
Moi, j'étais pas capable.
L'émotivité aurait été ailleurs.
Incapable de te parler
clairement.
De ça. Incapable.
Parlant d'émotivité, je veux parler là longtemps, juste deux secondes. Bon, on te suit. On a suivi les réseaux sociaux. Tristement, ton papa est décédé sans voir le monde autour de lui, justement à cause de...
À cause de la COVID. Il n'est pas mort de la COVID, mais à cause de la COVID, il était seul.
Exactement. Puis, tu disais, je suis fâché.
Ah oui.
T'as-tu défâché?
J'étais... Au moment où c'est arrivé, mon père est décédé début octobre. Au moment où c'est arrivé, c'était dans le pic des manifestations anti-masques. Puis avec les théories du complot, puis je sais qu'on marche toujours sur des œufs quand on parle de ça. Je m'excuse. Les gens qui croient à ça, c'est des astis de coucou.
Ah, regarde, la terre n'est okay? pas plate.
Puis là, je te dis ça, ils vont le voir, je vais recevoir des menaces.
Ah, j'en ai aussi, regarde. Moi, j'ai fait des chroniques sur télécharger l'application de la LAN, puis regarde, mon réseau social.
C'est ça, exactement. Bon, au-delà de ça, moi, ce qui me choquait là-dedans, c'est que... en même temps que ces gens-là faisaient ça, ben mon père, lui, il rentrait à l'urgence tout seul parce que... Puis il y a du monde qui m'a écrit, genre, t'avais rien qu'à rentrer avec, t'as pas compris. Je pouvais pas rentrer.
Ben non.
Il voulait pas que je rentre. Tu as laissé ton père mourir seul, t'as pas compris. Je pouvais pas être là.
Non, t'es là au bord de la porte.
Bon, c'est ça. Et moi, je trouve que cette génération-là, la génération de mon père avait 93 ans, cette génération-là est en train d'être totalement sacrifié.
Ils payent cher. Là,
ils payent bien, bien cher, puis ils ont des fins de vie dégueulasses pour du monde qui ont... Puis on parle même pas des baby boomers qui ont eu du fun. Là. C'est pas la génération qui a eu du fun. C'est la génération qui a travaillé fort en tabarouette, qui la plupart sont partis des campagnes, sont établis.
Ils ont défriché ce monde-là.
Exactement.
Pour vrai, là, enlever des arbres.
C'est ça. Ben, mon père était bûcheron.
Ah ouais, yeah.
Bon, fait que, tu sais... L'espèce de confort qu'on a, là, tout ce qui nous entoure, là, ça a beau avoir ses défauts, ça a beau être imparfait. Oui, le système hospitalier est imparfait, puis il ne fournit pas, puis tout ça. Mais tout ça, là, c'est cette génération-là qui l'a construit et qui a fait des sacrifices pour qu'on l'aille. Et là, tu te retrouves aujourd'hui avec du monde qui dit ah, eux, c'est crevé, c'est pas grave, ils seraient morts pareil. Ça, tu sais, c'est ça qui m'a choqué là-dedans. Le comportement insouciant de certaines personnes de dire. Tu sais, il y en a qui disent, pas compliqué, on a juste à les isoler pour les protéger. Comment tu fais ça? Comment tu isoles, tu sais, ma mère est en résidence.
On prend toutes les vieux, on les amène à l'île bizarre, bon, les parties.
Puis il faut qu'ils s'arrangent tout seuls. Il n'y a personne qui va rentrer
ben, de temps en temps. IGA,
c'est ça,
là,
exactement. Mais c'est eux autres qui vont le vider, le camion.
Oh, okay.
Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un rentre.
Ah,
tu ne peux pas isoler personne. On est interrelié, on est de même. Fait que moi, les gens dont le réflexe est un réflexe égoïste, de dire « Hey, moi, j'ai le droit de rentrer là, pas de masse, moi. »
Moi.
Liberté, moi.
C'est une année où on rentre dans nos terres, on se met à réfléchir aussi. T'sais. Fait que là, tu pars ton type, papa, l'enfant plus loin. Tu fais comme, regarde, une vie à vivre. T'sais. Fait que on s'amuse, on provoque le danger.
T'es pas loin de la vérité. C'est-à-dire que dans la réflexion, j'en ai pas parlé beaucoup de ça, mais effectivement, dans la réflexion, il y a le fait que est-ce que ça me tente de travailler tant de jours par année jusqu'à 10 heures le soir pour encore bien longtemps. Ça me tente de travailler, ça me tente d'avoir du
fun.
C'est un peu dans la même optique que je te dis, tu sais, j'aime mieux faire un balado que de faire de la radio quotidienne comme animateur qui doit passer 10 heures par jour à faire son show. C'est plus ça. Puis c'est pas parce que je suis paresseux. Je suis pas paresseux, c'est écrit là-dessus.
Non, je suis pas paresseux.
C'est parce que j'ai peut-être effectivement envie d'avoir un petit peu plus de profiter un petit peu plus, ce qui ne veut pas dire me pogner le beigne, parce que je suis incapable de me pogner le beigne, mais de
fait que ça veut dire, ça va être ma dernière question, est-ce que j'ai devant moi un gars qui se prépare une crise de la soixantaine positive? c'est en juillet, là.
Ouais, ben j'imagine que s'il y a une crise, elle va être positive, parce qu'à date, ils ont tous été positifs. Moi, ma crise de la quarantaine a été, ça a été un pet, mais ça, je suis un char.
Oh.
Puis, tout
50? C'est 40 un char?
40, 50. Ouais, non, mais ce qui est drôle du char, c'est que tous mes amis qui ont fait une crise de quarantaine, eux autres se sont séparés. Puis il y en a une couple que je ne nommerai pas, qu'on dit ça t'a coûté pas mal moins cher. T'as acheté un
char. Clairement. C'est sûr, ça coûte moins cher. Va t'acheter une Tesla, c'est pas grave.
crise de la cinquantaine, j'ai pas fait ça. Je suis pas un criseux, moi. Non. Moi, je suis. J'ai fait un méga burn-out quand j'avais la vingtaine, dans les grosses années d'RBO. Là, j'ai comme. Tu sais, je suis arrivé à un point où j'avais travaillé tellement fort pour arriver là que quand je suis arrivé là, j'étais épuisé.
Ouais, ça arrive souvent, on n'en profite pas. Mais...
Fait que j'en ai pas profité. Fait que je me suis claqué un solide burn-out et j'ai appris à gérer beaucoup mon stress. J'ai appris à gérer mon énergie, ce qui fait en sorte que je me retrouve plus vraiment dans ce genre de situation-là. Je suis capable, même quand je faisais, là, tu sais, tout le monde en parle, le bye-bye, puis un souper presque parfait en même temps, parce qu'il y avait un moment où tout ça se faisait en même temps, bien, je réussissais à avoir une semaine de vacances là-dedans. Ben, je la planifiais, là, dans le...
Oh, et là-dedans, avec ton bleu.
Mon bleu, à un moment donné, il disait, regarde, attends un peu, il y a le gala de la disque, tout le monde en parle, arrête une semaine. Minou. Que parfait, l'horaire, là, cette semaine-là,
là, Expedia,
je
Minou.
Veux rien. Le bye-bye, moi, regarde, ma script édition, je vais la faire sur le bord de la piscine, ça vous dérange-tu? Je vais aller jouer au golf, tatata, je m'en allais une semaine dans le sud, puis je revenais, puis je repartais.
Génial.
C'est ce genre d'affaires-là, mais ça, on ne peut pas le faire présentement.
Non, absolument. André, merci infiniment.
Merci à toi, c'était fort agréable.
Tout le monde, je suis content jusqu'à maintenant, là, j'ai pas trop d'erreurs de casting, mon balado, dans le sens que vraiment, le monde que je rencontre, puis je le dis dans l'intro, ouais. C'est vraiment du monde qui sont les entrepreneurs de leur vie, qui ont pris leurs affaires en main, mais qui, à la fin de la balado, de façon cucu, si je leur dis « Hey, ça te tente-tu de dire le nom de mon balado, puis de le dire haut et fort, parce que tu... » You feel it, je pense que je regarde ta face, puis oui, effectivement, t'es le genre de gars qui a envie de dire.
C'est beau, la vie.
La vie est belle.
C'est ça.
Parce que je t'ai mis un cue card, là.
Non, je sais, je voulais pas la regarder. Je voulais pas la regarder, je dis, je veux que ça soit senti.
Ah!
C'est beau, la vie est belle, c'est pareil.
Non, je sais bien.
C'est synonyme.
Hey, merci.
Ben, je sais, je l'avais vu tantôt, j'ai dit ça, il a mis ça là, pour que je le dise.
Fait mais, que je le dirai pas. Ben, je l'ai dit, c'est rebelle.
C'était La vie est belle. À la prochaine.